Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis. Et
c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tel des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Divergence. Je suis ravie de revenir dans les studios parce que ça faisait très longtemps. Bonjour à Tom en régie, ça faisait longtemps aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle et Justine de Calive, le festival d'art urbain de Sète. Bonjour mesdames.
Bonjour Laura.
Et bonjour.
Bienvenue dans Terrain Vague.
Merci beaucoup.
Je suis ravie de vous avoir avec moi. Alors aujourd'hui, on va parler du festival, on va revenir sur l'histoire de ce festival, comment il a été créé, à partir de quel constat qui a été fait. On va aborder plusieurs sujets, puis forcément on parlera de la programmation de l'édition de cette année. Christelle, tu nous dis un petit peu comment a été créé ce festival ?
Eh bien, le Calive est apparu en 2007-2008 dans la ville de Sète. Mm-hmm. Et c'est Laurent Villarem, le fameux photographe montpelliérain,
oui,
qui est un amoureux du street art, qui avait envie à l'époque de participer à l'essor de ce mouvement, hein, qui,
okay,
connaissait une sorte de mutation. Personnellement, j'ai rejoint l'équipe en 2010 et pour travailler avec Laurent, qui, mm-hmm, a quitté l'aventure il y a maintenant 7 ou 8 ans. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'était de prétendre à toujours plus de poésie dans l'espace urbain.
Mm-hmm.
C'était cohérent aussi, ça faisait sens que ça ait lieu à Sète, puisque Sète est une ville qui a toujours eu une histoire assez forte avec l'art,
tout à
fait, et peut-être plus particulièrement avec la peinture.
Mm-hmm.
Et le projet a été accueilli par la ville dès ses débuts, hein, en 2007-2008. C'était assez précurseur que d'accueillir un musée à ciel ouvert. Bon, il nous a fallu 2 ou 3 ans pour mûrir le projet et qu'il soit accepté de part,
ouais,
et d'autre. Mais et convaincu que vivre parmi des œuvres d'art est bon pour notre psyché,
ouais,
à tous.
Tout à fait. Et puis aujourd'hui, c'est devenu une institution au sens figuré du terme, le Calive. Enfin voilà, je pense que vous avez une renommée qu'on n'en a plus besoin d'expliquer.
Je crois qu'on est assez modeste, mais on nous a dit que le MACO de Sète, donc le musée à ciel ouvert, avait acquis une reconnaissance au niveau à minima européen. Donc on est assez contents.
En faisant un petit tour sur votre site, j'ai vu qu'il y avait plus de 40 œuvres.
Alors, à ce jour, il y a une quarantaine d'œuvres qui peuvent se visiter dans le cadre du MACO,
mm-hmm,
mais je crois qu'on a dû en réaliser une soixantaine, certaines ayant disparu suite à des démolitions de bâtis ou d'interventions humaines diverses et variées ou au gré du vent marin.
Oui, bien sûr.
Donc, mais à ce jour, je crois que c'est 42 précisément.
C'est énorme, donc forcément que... Enfin, j'imagine que toutes les villes déjà n'ont pas de festival d'art urbain contemporain. Avoir ce patrimoine-là artistique, c'est quelque chose qui forcément vous fait rayonner, enfin fait rayonner le festival à l'échelle européenne, c'est sûr, quoi.
Oui, mais on a la chance de se trouver sur l'île singulière.
Exactement.
Et je pense que ça y participe grandement.
Ouais, je suis sûre. Et c'est un argument. Enfin, est-ce que vous le voyez aussi comme je sais que les collectivités en font un argument, en tout cas, surfent un peu sur cette vague du street art et de l'art dans l'espace public pour attirer un nouveau tourisme, quelque part. Est-ce que le MACO, justement, est-ce que le MACO existe déjà depuis le début du Calive ou c'est quelque chose qui a été fait ?
Je pense qu'on l'a nommé ainsi en 2010-2011.
Oui, quand vous avez commencé à voir déjà quelques œuvres.
Quand on a, il a fallu que ça mûrisse et puis que les choses s'installent sur le territoire sétois, que les sétois s'approprient en premier lieu ce musée à ciel ouvert. Après, nous, on a eu la chance dès le début d'être soutenus par la municipalité.
Mm-hmm.
Et on a mené des partenariats, entre autres, par exemple, avec l'Office de tourisme.
Oui.
Et les visites guidées faites par les guides de l'Office de tourisme, qui, pour certaines, parce que ce sont des femmes, sont passionnées de street art, mm-hmm. existent depuis plus de 10 ans.
Okay.
Donc, oui, ça participe à un patrimoine culturel.
Oui. Est-ce que vous remarquez que effectivement, ça attire des gens, alors peut-être qui connaissent Sète, mais qui redécouvrent Sète à travers ce parcours-là? Est-ce qu'il y a une nouvelle forme de tourisme un petit peu qui se développe autour de...
Alors, ce serait prétentieux de l'affirmer comme tel, mais quand même, on a observé dans le cadre des deux ou trois dernières éditions que des gens venaient spécifiquement pour le festival. Mm-hmm. Autour de l'art urbain, parce qu'il y a ce musée à ciel ouvert que l'on peut découvrir, mais aussi parce que c'est lié à des soirées musiques actuelles.
On va y venir. D'abord, je voulais savoir si tu pouvais nous révéler un petit peu d'où vient le nom de K-Live. C'est un peu particulier quand même, hein, comme nom, je ne sais pas, je ne vois pas du tout qu'est-ce que ça pourrait, à quoi ça pourrait se rapporter.
Eh bien, live, parce que nous sommes vivants, bien vivants,
mm-hmm.
et que c'est indispensable à notre bien-être de se sentir bien vivant, envers et contre tout, je dirais.
Mm-hmm.
Et puis le cas, c'est inspiré d'un vieux symbole, un symbole égyptien, qui symbolise la synergie. Et le K-Live, c'est une aventure humaine et artistique qui n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas cette dream team exceptionnelle et cette réunion d'individus qui, chacun avec leur énergie, forme une synergie.
Oh, c'est trop beau. Justine, tu vois, t'as appris quelque
chose. Je l'apprends en direct.
Grosse exclu.
Le grand secret.
Grosse exclu dans tes rêves, Justine a appris la signification de ce mot. Mais c'est hyper joli et c'est beau de mettre en avant les énergies de chacun et qui participent à construire quelque chose de commun.
Ah oui, on est une petite équipe, oui, c'est très soudé et puis motivé par la même envie de partager cette aventure, comme je disais, humaine et mmh. artistique. Chacun ayant sa propre responsabilité au sein de l'histoire.
Le festival, bon, voilà, il se passe des tas de choses. Il y a un volet musical auquel on viendra tout à l'heure. Il y a une place qui est donnée à la scène émergente du street art, des jeunes artistes. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans tous les festivals. Quelle a été la volonté à travers ça ?
Alors, depuis le début, on a eu envie d'inviter des artistes de renommée internationale ou nationale ou des artistes émergents, qu'ils soient jeunes, moins jeunes.
Mm-hmm.
Mais est né il y a maintenant 3 ou 4 ans, je dirais, le K-Live Young.
Oui.
Et l'intention, c'était de permettre à des jeunes artistes locaux,
mm-hmm.
Émergents, de participer à l'aventure, de participer donc au Mako de Sète via le K-Live Young. Et depuis 3-4 ans, nous invitons 4 artistes, 2 femmes, 2 hommes,
cool.
à réaliser ensemble une grande peinture murale.
Et c'est sur une seule œuvre, mais commune.
Oui, une seule œuvre commune.
Cool.
On avait envisagé que chaque année, les quatre nouveaux artistes repeignent
okay.
sur la façade réalisée l'année précédente. Et puis en fait, on aime trop leur travail. Donc on cherche un nouveau mur, une nouvelle façade chaque année.
D'accord.
Et on positionne ce mural sur le plan du Mako de Sète. C'est aussi
okay.
un peu leur permettre une certaine visibilité.
Et oui, bien sûr. Bien sûr. Mm. Il reste des murs à Sète, à force.
On en a pas mal en stock.
C'est vrai ?
Ouais.
Parce que je me dis qu'avec une quarantaine d'œuvres... Enfin, il faut les trouver, quoi, les
Après,
les
on n'est pas que sur du monumental. Ce que l'on aime, c'est que ça s'intègre aussi au quotidien des gens. Donc,
mm-hmm.
Par exemple, il y a une façade qui a été réalisée il y a quelques années par Alex Wan. C'est une façade d'un café. Et c'est assez amusant parce que les gens viennent comme ça boire leur café, certains tous les matins. Et ils sont comme intégrés dans la peinture
Bien
murale.
Sûr.
Puis ça fait partie de leur quotidien. Donc, il n'y a pas que du monumental. Il y a parfois des œuvres plus petites.
Ouais.
Comme celle, par exemple, que va restaurer Philippe Baudeloc, qui doit faire 3 par 3.
Ok.
D'autres font 20 mètres
oui,
par 6. Donc, des murs, il y en a beaucoup. Et on a de plus en plus de sollicitations.
Ah, génial.
Donc, des privés qui nous mettent à disposition des murs.
Ok.
Et on a moins de moyens qu'il ne faut pour pouvoir répondre à toutes ces sollicitations.
Aïe, aïe, aïe. Si vous nous entendez, donnez des sous au Calaï. Je me tourne vers Justine et on va parler un petit peu de la partie musique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le festival fait la part belle à une programmation musicale qui est riche. Comment sont choisis un petit peu les artistes qui vont intervenir ? Est-ce qu'il y a un lien avec le côté urbain ? Est-ce qu'on est en complet décalage ? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur cette programmation ?
Alors oui, sur la partie musique donc, qui existe au Calive et qui fait complètement partie de la programmation du festival, on essaie de faire un lien avec la partie art urbain, notamment sur l'événement, peut-être qu'on en parlera après, du Calavexki, qui est donc réalisé, c'est une performance qui est réalisée en musique, donc avec des artistes qui jouent en live. Sur la partie vraiment concert qui clôture le festival chaque année au Théâtre de la Mer traditionnellement, je dirais que là depuis 3 ans, encore plus que les précédentes années, on s'efforce de faire le lien et d'intégrer complètement cette programmation à l'ensemble du festival parce que donc, depuis 3 ans, Calive produit ses concerts au Théâtre de la Mer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. On l'organisait en partenariat avec des producteurs locaux ou pas locaux. Donc on avait moins la possibilité de choisir la programmation, comment communiquer sur la soirée, qu'est-ce qu'on veut mettre en place au Théâtre de la Mer, etc. Donc là, depuis 3 ans, c'est un sacré boulot qu'on fait, parce que donc, c'est nous qui choisissons la programmation, c'est nous qui choisissons notre équipe.
Vous êtes vraiment libre de...
Exactement, et donc c'est plus de risques, mais du coup, c'est plus de choix aussi.
Bien sûr.
Et donc sur la partie prog, on essaie de... Nous, notre créneau, c'est de, d'intégrer cette grande fête de fin de festival. Et en plus, on a la chance d'ouvrir la saison au Théâtre de la Mer. C'est trop chouette, sur une soirée clubbing, donc qui finit à 3h du matin. Donc ça fait beaucoup d'avantages pour nous et donc on essaie de proposer une programmation qui célèbre cette grande fête de début d'été, envie de dire. Quand on choisit la prog, on essaie aussi de mettre en avant du live parce que c'est une partie de la musique qu'on aime beaucoup aussi. Là, cette année, par exemple, on aura donc Tchégué qui reviendra.
Déroule.
En tout cas, on essaie de mettre en avant du live, mais bon, aussi des DJ sets parce que du coup, à partir de 12h30, on a le droit que de faire des DJ sets au Théâtre de la Mer.
D'accord.
Pour une grande fête qui se termine à 3h du matin.
Ok.
Et depuis 3 ans, du coup, on essaie aussi d'investir le théâtre en mettant en avant ce qui a été fait pendant le festival au travers, par exemple, d'affichages de photos, de bâches qui représentent les fresques qui ont été faites pendant le festival.
Ok.
Des bénévoles qui sont présents pour parler un petit peu de ce qu'on fait.
Trop bien.
Voilà, donc ce genre de mise en avant qui nous est plus possible depuis quelques années. Voilà.
Ok, c'est très cool que vous ayez la liberté d'avoir une programmation peut-être qui vous ressemble plus.
C'est ça, c'est nous qui choisissons. Puis comme disait Christelle, on est une petite équipe. Et donc même si je suis en binôme avec ma collègue Miles sur la partie gestion avec les prods, etc. En fait, on est vraiment toute l'équipe à choisir. On déroule nos propositions d'artistes qu'on aimerait accueillir, tout le monde choisit. Enfin voilà, c'est vraiment une prog qui est faite en équipe.
Est-ce que pour la programmation des fresques, du coup, c'est un peu... Enfin, vous avez une wish list avec les artistes que vous avez envie d'inviter année après année, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des artistes qui se manifestent auprès de vous en disant « Coucou, moi j'aimerais bien participer au Calive ».
Alors déjà, je crois que je ne vivrai pas assez longtemps pour inviter tous les artistes que j'aimerais inviter. Et puis en plus, il y a des très beaux noms dont j'adore le travail, mais bon, c'est un peu inaccessible. Il n'y a pas de règle. J'aime bien dire que le mur appelle l'artiste. C'est-à-dire que je repère un mur et puis je me dis « Tiens, ça matcherait vraiment bien avec l'univers de tel ou tel artiste
».
Parce que c'est important, je trouve que ça fasse sens aussi dans l'endroit, dans l'espace urbain dans lequel il se trouve. Après, parfois, ce sont des artistes qui nous sollicitent ou des artistes introduits par d'autres artistes. Donc, il n'y a pas de règles établies.
Oui, vous avez pas un appel à candidature ou un appel à projet pour...
Non, on a peut-être fait ça, mais ce n'est pas tant un appel à candidature. C'est dans le cadre du Calive Young, qui est organisé par Morgan, là, qui fait partie de l'équipe. On a fait un post sur les réseaux sociaux.
D'accord, ok.
Voilà, demandant si des jeunes artistes...
étaient intéressés.
Voilà,
ok. Tu as parlé tout à l'heure, Justine, du Calive Exki. Je voulais justement en parler parce que je trouve que le concept est génial. Donc là, c'est Calive Exki, forcément, mais c'est sur le principe du cadavre exquis qu'on connaît tous, qu'on a fait à l'école, en écrivant ou en dessinant. On commence quelque chose, on le cache, celui d'après continue, etc. C'est pas évident quand même, non, comment tu mets ça en place sur un mur ? Comment tu choisis ton binôme d'artistes, si c'en est que deux ou plusieurs, je ne sais pas.
Ils sont toujours deux.
Ok. Donc comment tu mets ça en place déjà? Et comment est venue l'idée?
Alors déjà, le Calive Exquis, c'est né d'un projet de fin d'études de Clara, qui fait partie de l'équipe, qui m'assiste sur bien des choses. Et j'ai trouvé l'idée tellement géniale que je lui ai dit, ah ouais, on va le mettre en place et puis on va le garder, ce projet. Donc il s'agit d'inviter deux artistes. Les mots sont remplacés par des gestes de peinture. Et ils interviennent sur une façade qui doit faire de 4, 6, 8 mètres de large par 2 mètres de haut à peu près. Donc chacun intervient sur un panneau de 2 mètres, tac, et revient. Quant au choix des artistes, je sais pas, cette année on invite Vegetalismo et Aurélie Andrés et on se dit que même s'ils se connaissent pas, leur univers, ça va matcher. Il y a eu parfois, on a fait avec deux femmes artistes, deux hommes artistes, un homme, une femme cette année. C'est des espèces d'associations qu'on suppose, qu'on imagine et on se dit waouh, ça va donner un truc magique. Voire peut-être même surréaliste, cette année ça risque de l'être, vu les deux artistes. Et puis quand c'est accompagné par, là ça va être accompagné par du live, qui vient un peu nourrir comme ça le projet, ce live painting, comme on l'avait fait une année avec Bolt et un artiste de Sète, André Cerveran. Donc ça c'était deux générations.
Ah oui, aussi, qui se rencontrent.
Un artiste peintre et un artiste issu du street art, qui se connaissaient très très peu, puisque les artistes n'ont pas le droit de communiquer entre eux auparavant. Il faut vraiment que ce soit de l'impro.
D'accord.
Et là, avec ces deux artistes, c'était assez génial, parce qu'en fait, ils ne se connaissaient quasiment pas, mais il y avait quelque chose de... Il y avait des points communs entre eux, il y avait des accroches communes entre eux.
D'accord.
Et sur un live, c'était un moment assez magique, quoi, assez génial.
Et ils ont un thème ou pas? Non.
Non, même pas.
Pas de,
non,
pas
non,
de
non,
thème.
On leur demande de l'impro total.
D'accord. Donc, du coup, comment ça se passe? Il y en a un qui commence?
Oui, il y en a un qui commence sur un panneau de 2 mètres de large par 2 mètres de haut. Tac, il a un temps donné qui est de 20-25 minutes. Une fois qu'il est passé, on recouvre avec un tissu. Il y a juste un petit bout de
qui
dépasse. Le deuxième arrive, tac, pareil, même
génial.
Temps donné. On recouvre, tac. Et le premier revient sur le troisième panneau. Le deuxième revient sur le quatrième panneau. Et là, c'est roulement de tambour. Quand tout est fini, on dévoile.
Ah, excellent. Mais non, mais le principe est génial. Vous avez vraiment une idée de génie. Et puis le Calive Exquis, ça marche très bien comme nom. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas fait depuis le début, hein. Vous êtes venu en cours.
Ça doit être la sixième, avec l'année zéro de 2020. Ça doit être la cinquième ou sixième édition.
Et vous avez du monde, alors hormis live painting, vous avez des gens qui assistent à ça, qui voient les artistes en train de peindre?
Dans le cadre du
Calive Exquis.
Que ça a lieu dans le cadre de ce qu'on a baptisé la block party, où on ferme une partie d'une rue à 7.
Okay.
Et c'est suivi, le Calive Exquis est suivi d'un DJ set jusque fort tard dans la nuit, auquel Justine pourra peut-être parler au niveau de la programmation.
Oui, on va y venir.
Et il y a des gens qui sont friands du Calive Exquis et qui en profitent par la suite pour venir danser.
Et oui, puis en plus voir les artistes comme ça peindre sous nos yeux, enfin c'est pas donné à tout le monde.
C'est génial avec les street artistes.
Exactement.
Hein,
exactement. Aller les voir peindre sur un projet, moi je sais que c'est quelque chose que j'affectionne. Chacun a sa technique, on a tellement de choses à découvrir à chaque fois quand on va les voir peindre.
Ouais. Et c'est en cela que l'art urbain contemporain, selon moi, participe grandement à ce que l'on appelle la démocratie de l'art, en ce sens que ces artistes sont en prise directe avec les populations, et inversement, les populations sont en prise directe avec ces artistes. Et il y a des échanges qui sont assez uniques, des discussions et des sensibilités qui s'éveillent à l'art parce que ils ont l'occasion de parler avec des artistes, et je trouve c'est assez génial.
Mais ça participe aussi à rendre cet art-là accessible, à le faire comprendre, à le faire accepter aussi par les gens. Alors voilà, les habitants qui sont les premiers bénéficiaires de la réalisation de ces œuvres, il faut que ce soit quand même à eux que ça plaise en premier, quoi.
Pour compléter ta question aussi, j'ajouterais même que c'est l'essence même du Calive, moi je trouve, depuis que j'y suis, de créer ce lien, justement, que les gens puissent aller voir les artistes en train de peindre.
Bien sûr.
Que ce soit sur les fresques pendant la semaine du festival, mais aussi du coup sur des événements comme la block party, le Calive Exquis et d'autres. Et c'est vraiment le principe. Et pour que ça fonctionne, ben, tous ces événements-là sont gratuits. Mmh. Et ça, c'est aussi une chance. On a la chance de pouvoir organiser ces événements et les rendre accessibles à tous. Donc, et dans la rue.
Et
vraiment,
oui, et dans
complètement
la rue.
Ouvert. Voilà.
Donc, et ça, c'est ça qui est génial. On revient sur la programmation musicale. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur... On va parler de la programmation de l'édition de cette année. Commençons par la musique, par exemple. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce qui est programmé cette année au K-Live ?
Alors au K-Live cette année, on a plusieurs événements du coup pendant la semaine du festival où on associe du coup des événements musicaux. Le premier, mini aparté, mais le tout premier, c'est le K-Live Kids. Peut-être que ce sera intéressant de le développer. Ouais. Donc qui sera le mercredi 29 mai et qui sera clôturé par un petit showcase de Petit Copec,
cool.
Qui est le rappeur C'est Toi, voilà, qu'on connaît bien et qui avait envie de s'intégrer à cet événement et ça collait bien pour nous.
Trop bien.
Le jeudi à la Ola, qui sera l'événement un petit peu ouverture du festival pour tout le monde, le grand public. Donc là on aura un live painting aussi, Christelle pourra peut-être le développer. Et la soirée se terminera avec un DJ set du collectif OK OK, qui est un collectif parisien,
okay.
Qui viendra donc OK, exactement, ça fonctionne bien.
Oui.
Donc grosse fête à la Ola aussi, la plage, le soleil, début d'été, ça fonctionne bien, nickel.
Bah oui.
Et donc la block party dont on parlait à l'instant au Barbu, donc là on a la chance aussi de pouvoir monter cet événement en partenariat avec le Barbu qui est le bar à 7 sur le quai et qui du coup on bloque cette rue, donc on met en place cet événement on n'en voit plus trop hein, entre Montpellier et 7, des moments où on peut bloquer nos rues, mettre de la musique, danser.
J'allais dire je vais dire un mot qui est pas très joli, mais c'est couillu quand même. de bloquer une rue comme ça.
On est des filles couillues.
Ouais. Mais je vois bien que vous êtes des filles couillues. Oui. C'était le bon mot finalement.
Et donc sur cette block party, on aura plusieurs DJ invités, notamment Marina Rabita, qui est une DJ qui est à Montpellier, qui fait partie depuis peu du collectif Pignata Radio.
Okay.
Et un B2B de Mendy et 1h42, qui sont pas mal actifs aussi sur Montpellier en ce moment. Je crois qu'ils ont joué au Rockstore il n'y a pas très longtemps. Et qui seront donc en B2B. Et donc tous ces DJ sont plutôt sur une esthétique afrobeat.
Oh, chouette!
Voilà, donc ça va bien bouger jusqu'à tard dans la nuit, 1 heure minimum, 2 heures maximum. Voilà, donc ça fait déjà quelques années maintenant qu'on fait ça et c'est un moment de grande danse commune avec tous les Sétois et tous les participants au festival.
Et j'imagine que ça rencontre un franc succès.
Et oui, ça fonctionne bien et c'est très chouette. C'est très chouette de pouvoir danser dans la rue en plein air.
Mais carrément.
C'est super cool.
Carrément. Et puis comme tu disais, on n'en a pas souvent l'occasion.
C'est ça. Non, mais on a vraiment de la chance. C'est vraiment, on essaie de l'organiser pour que tout se passe bien. Mais on a vraiment de la chance que cet événement existe parce que c'est presque le meilleur souvenir que j'ai presque du festival, c'est la block party qu'on avait fait juste après le Covid.
Mm-hmm.
C'était donc le seul événement qu'on avait eu l'autorisation de faire puisque les concerts au Théâtre de la Mer n'étaient pas autorisés mm-hmm. cette année-là. Et c'était retour à la musique live, retour à la musique en plein air.
Mais juste après rassemblement, le confinement, ça devait être fou.
Ouais, il y avait eu vraiment une énergie qui s'était dégagée dans cette soirée. C'était incroyable, c'était une catharsis presque. Enfin,
Bah oui, j'imagine.
Même si c'est un peu le cas chaque année en vrai, mais en particulier, voilà.
Celle-là,
c'était assez fort. Et du coup, on clôture le festival par le traditionnel K-Live Club qui a lieu au Théâtre de la Mer, dont on a abordé un petit peu le sujet tout à l'heure.
En beauté.
Exactement. Donc, ouverture de saison au Théâtre de la Mer. L'an dernier, on a vu une magnifique pleine lune pour nous accompagner sur la mer. C'était trop beau. Et cette année, au K-Live Club, on accueille du coup 4 artistes et non pas 3. Donc, on a un peu upgradé le niveau cette année. On est très fiers de ça aussi.
Ah oui.
Et donc dans ces artistes-là, on accueille le duo de Chege, qui sera accompagné de musiciens, qui est de retour sur scène, qui n'a pas joué depuis 2018 ou 2019. Et donc là, on a de la chance aussi parce qu'ils sortent un EP en septembre ou en octobre.
Mm-hmm.
Mais ils viennent le jouer en avant-première, tout juste après leur sortie de résidence en mai, pour nous au Théâtre de la Mer. Donc pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir ce groupe afro-punk, c'est un peu comme ça qu'ils se décrivent, mais quand même bien teinté d'électro aussi. Mais en tout cas, ça bouge, ça crie, ça danse.
Trop
voilà.
Bien.
Donc, à découvrir en avant-première avec nous. On accueille aussi Molécule, qui est un producteur, artiste, musicien, plutôt électro, qui lui est un grand nomade et qui se promène partout dans le monde. Il va enregistrer des sons en Antarctique, dans plein de pays, voilà, qui sample ensuite
mm-hmm.
pour en faire des morceaux assez planants. Mais bien électro quand même.
Okay.
Et donc il les joue en live, c'est pas un DJ set, c'est vraiment un live accompagné d'une très belle scéno immersive. C'est un peu notre créneau aussi, ça fait 3 ans qu'on accueille des DJ, enfin des DJ pas du tout, des artistes live justement, mais avec des qui apportent aussi une scéno qui va avec leur production musicale et qui permettent une immersion dans un lieu déjà très immersif puisque tout ça c'est en avec un fond magnifique qui est celui de la mer, donc voilà, donc on est sur une totale immersion.
Trop bien.
On continue avec Sofia Courtesis, qu'on est très fiers d'accueillir, parce que c'est une DJ péruvienne à la base, mais qui habite à Berlin, et qui tourne beaucoup dans le monde, mais très peu en France, voire je crois jamais jusqu'à cette année. Et donc on est les seuls à l'accueillir avec Lyon, les Nuits Sonores, il me semble qu'elle passe. Mm-hmm. Et donc elle vient chez nous juste après avoir joué à Primavera à Barcelone, ce grand festival.
Oui.
Donc elle fera 2 heures de set juste après Molécule,
ah ouais.
Donc ça va être top.
Costaud.
Et pour ouvrir et fermer cette soirée, c'est un DJ local qui s'appelle Izem, qui habite à Montpellier, mais qui a habité longtemps dans plein de pays, comme au Portugal ou en Amérique du Sud, et qui s'est inspiré beaucoup de ce qu'il a pu entendre et c'est les artistes qu'il a pu croiser à ce moment-là pour produire sa musique et faire ses DJ sets. Il travaille notamment avec Flavia Coelho, par exemple. Et donc voilà, c'est lui qui aura la chance d'ouvrir et de clôturer cette soirée magnifique.
Et bien une belle programmation et très éclectique d'après ce que j'entends.
Exactement, mais danse avant tout.
La danse avant tout, ouais. Exactement, et la fête. Je me tourne vers Christelle, je crois qu'il doit nous rester 3 ou 4 minutes. 3 minutes, vite. Qu'est-ce qui va se passer au K-Live côté peinture? Alors, vas-y, je te...
Petite parenthèse déjà, grande première mondiale, un loto street art, samedi 4 mai à la Ola.
Génial.
Vous êtes bienvenus. Sinon, le K-Live Kids, le mercredi 29 mai...
C'est un atelier du coup?
C'est un grand atelier street art pour les enfants de 6 à 12 ans.
Trop bien.
Qui peuvent découvrir les différentes techniques qui existent dans le cadre de l'art urbain. Le Mako de 7 avec les artistes Arnaud Liard, Los Pepes Studio, Philippe Bodlock et les Murs ont des oreilles, donc du 29 mai au 2 juin dans la ville. Le K-Live Young avec les artistes locaux, toujours du 29 mai au 2 juin avec Ori, Kuro 222, Fahrenheit et Meta Art. Le Live Painting de Margot Mérandon le jeudi 30 mai. Le K-Live Exquis avec Aurélie Andrès et Végétalismo. Et puis le K-Live Talk avec une invitée de marque, puisque nous aimons beaucoup cette universitaire, qui est Karen Brunel, qui viendra nous parler de art urbain, espace public et démocratie dans les jolis jardins du musée Paul Valéry. Tout cela, bien sûr, sur le site k-live.fr.
Exactement, j'allais dire, notez bien les infos, notez bien les dates, 29 mai, 2 juin. Il y en a pour les enfants, il y en a pour les amateurs, il y en a pour les passionnés, il y en a pour tout le monde, pour ceux qui ont envie de danser, ceux qui ont envie de voir des gens peindre, il y a tout ce qu'il faut. Un petit coucou à Arnaud Liard, qu'on adore chez Line-Up, à Fahrenheit, à Kuro, à Métarté, avec qui on a bossé, qui sont des super artistes avec un talent très prometteur, et qu'on est ravis de voir au K-Live. On arrive à la fin de cette émission, hein, Tom? Tom me dit oui. Il reste une minute. Le petit mot de la fin, Justine?
Moi, je dirais, si vous voulez vraiment participer à l'expérience K-Live, venez du début à la fin, en fait, parce qu'il se passe plein de choses différentes. Mais c'est avant tout plein de rencontres. Et s'il faut choisir, choisissez bien sûr l'événement qui vous parle mieux. Mais en vérité, la semaine K-Live est à faire en entier.
Allez, Christelle?
Eh bien moi je dirais qu'il est important dans la vie et surtout vu l'état du monde et la société dans laquelle on évolue de se sentir vivant, bien vivant et que en toute modestie j'ose affirmer que le K-Live peut nous le permettre. Donc bienvenue à cette du 29 mai au 2 juin.
Merci beaucoup Christelle et Justine d'être venues au micro de Terrain Vague et puis bon festival et à très bientôt pour nos auditeurs. Merci Tom et salut.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Ben regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffitis, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est de véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.